Les petits matins, Claude Defago.
Et 5 heures sur la première qui vous offre la météo de ce jour avec un soleil qui sera de retour. Après dissipation des derniers nuages dans les Alpes, notamment en Valais, le soleil brillera sur l'ensemble de la journée. Les températures seront douces, notamment en montagne. Le week-end sera bien ensoleillé avec des passages nuageux sur le nord de la Romandie. En Valais, le soleil régnera en maître. Le thermomètre montera jusqu'à 14 degrés samedi et 10 dimanche. En clair, un beau week-end à la montagne et sur les pistes. La Suisse a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU à New York d'appliquer de manière plus décidée des résolutions sur le renforcement de la sécurité et des droits des femmes dans les conflits. Selon le numéro 2 de la mission suisse auprès de l'ONU, Thomas Gerber, personne ne doute au sein du Conseil que des violences sexuelles systématiques constituent un crime contre l'humanité. ONU toujours, l'ancien secrétaire général Kofi Annan a été nommé émissaire conjoint des Nations Unies et de la Ligue arabe sur la crise en Syrie. Il sera chargé d'offrir ses bons offices afin de mettre un terme à toute violence et violation des droits de l'homme et à promouvoir une solution pacifique à la crise syrienne, selon l'ONU. Parallèlement, la conférence des Amis de la Syrie s'ouvre aujourd'hui à Tunis. Proposée par Paris et Washington, cette réunion vise à faire pression sur Damas pour obtenir l'arrêt des violences en Syrie. Des diplomates arabes turcs et occidentaux y prennent part. Moscou et Pékin boycottent. La conférence devrait demander un cessez-le-feu immédiat à Homs, bombardé depuis 20 jours. Ainsi, hier, la répression a fait plus de 60 morts dans le pays. À Beyrouth, Laure Stéphane.
Après 20 jours de pilonnage, l'armée syrienne a tenté hier une offensive terrestre dans le quartier de Bab Amro à Homs, quartier tenu par les insurgés. C'est ce que rapportent des activistes sur le terrain. Selon eux, l'avancée de l'armée a donné lieu à de violents affrontements entre rebelles et troupes régulières. Des témoins ont décrit hier des bombardements terrifiants contre la ville en révolte, dont l'emplacement est stratégique pour le régime. Des appels à l'aide ont également été lancés par les journalistes occidentaux blessés mercredi à Homs, des journalistes que le gouverneur de la ville doit tenter d'évacuer en même temps que la dépouille de leurs deux collègues tués. Outre Homs, la répression s'est également poursuivie à Hama et dans la province d'Idlib au nord du pays. Face à ce bain de sang, la télévision syrienne expliquait hier les mesures de sécurité prises par les forces de l'ordre pour protéger les civils des groupes armés. Elle diffusait aussi des images de la vie ordinaire, comme si la situation était calme dans la majeure partie du pays. Laure Stéphane, Radio Suisse Romande, Beyrouth.
La Suisse a déployé d'importants efforts pour aider la Somalie à se doter d'une constitution avec des aspects fédéralistes. Selon le conseiller fédéral Didier Burkhalter, le fédéralisme pourrait constituer un outil clé pour l'avenir du pays, ravagé par 20 ans de guerre civile. Le mandat des institutions fédérales de transition somalienne, soutenu et financé par la communauté internationale, prendra en effet fin en août 2012. Cette date coïncidera avec l'adoption d'une constitution qui ouvrira la voie à la mise sur pied d'un nouveau gouvernement. Ce sont à peine plus d'un millier de logements neufs qui ont été construits à Genève en 2011, selon les derniers chiffres publiés hier par l'Office cantonal de la statistique. C'est 35% de moins qu'en 2010, mais c'est aussi beaucoup moins que les 2500 logements promis par an par le Conseil d'État. Outre l'année 2008, il faut remonter aux années 1936 à 1949 pour trouver un nombre aussi faible de logements neufs. Christophe Aumenier, député libéral et secrétaire général de la Chambre immobilière genevoise, relativise pourtant ces chiffres.
La production 2011 est faible, mais elle est très conjoncturelle. La production antérieure était autour de 1400 logements, et puis on voit qu'il y a 3300 logements en construction. Et donc, on voit là que ce sont des effets de yo-yo qui tiennent au fait que malheureusement à Genève, il faut 15 ans pour construire un logement. Et s'il faut 15 ans pour construire un logement, c'est qu'il y a aussi des forces d'opposition assez vives. Il n'y a pas un consensus très fort autour de l'acte de construire à Genève. Les enquêtes publiques s'agissant des procédures de construction sont au nombre de 7. Les personnes intéressées peuvent 7 fois s'exprimer, respectivement 7 fois intervenir dans la procédure, respectivement faire recours 3 ou 4 fois depuis le changement d'affectation des zones jusqu'à l'acte de construire. Je pense que nous devons accélérer les procédures de sorte que les gens n'aient aucun intérêt à recourir de manière dilatoire, mais que les recours restent ouverts pour des questions qui sont d'ordre juridique, mais qu'ils ne deviennent pas dilatoires et bloquent le système.
Des propos recueillis par Sylvie Belser. Athlétisme, la Russe Yelena Isinbayeva a fait sensation à Stockholm en battant son propre record du monde du saut à la perche en salle grâce à un saut à 5m01. Isinbayeva est également record woman en plein air avec un saut à 5m05. C'est son 28e record du monde. Cinquième de ce concours, Nicole Büchler a égalé son record de Suisse avec 4m52. Toujours le sport, sport matin, mais le ski alpin maintenant avec le début aujourd'hui, ce matin, du week-end des courses de Coupe du Monde masculine à Crans Montana. Au programme, deux Super G et un géant. En vedette, Beat Feutz. Le Bernois est en course pour remporter le classement général de la Coupe du Monde. Il est en concurrence notamment avec Didier Cuche pour celui de la descente et du Super G, Patrick Delletreau.
Marcel Hirscher, Autriche, 22 ans, spécialiste de géant et de slalom. Beat Feutz, Suisse, 25 ans, spécialiste de descente et de super G, mais ayant glané quelques points précieux en super combiné. Ce week-end sera sur le plan de la confiance extrêmement important pour tous les deux. Beat Feutz, partant avec les avantages de la côte, son concurrent n'ayant disputé que deux super G en Coupe du Monde et c'était en 2009. Mais pour Didier Desfagots, leur jeunesse les sert sur le plan mental.
Les deux sont jeunes et manquent d'expérience à ce niveau-là et c'est peut-être la chance de chacun aussi. Je pense que le plan mental le plus difficile, c'est ce week-end et on en saura beaucoup plus lundi.
Et mentalement, le Bernois semble pratiquement intouchable. D'humeur toujours égale face à la presse, il ne veut pas être un autre athlète ni un autre homme que celui qu'il est depuis toujours. Même si depuis le début de la saison à Sölden, il a pris une certaine ampleur.
J'ai pas changé, enfin j'espère. J'espère que je suis toujours le même. D'ailleurs, c'est un de mes buts, ne pas tout modifier parce que ça fonctionne bien comme ça. Je fonctionne d'ailleurs également de cette manière en tant que personne. Mais c'est clair, tout l'environnement a changé. On remarque ici tous ces médias. À Sölden, il y avait deux ou trois journalistes, pas plus. Et ça a changé.
Des médias très présents aussi autour de Didier Cuche qui, lui, mène le classement de la descente devant l'Autrichien Klaus Kröll et Beat Feutz. Feutz et Cuche qui sont en concurrence encore pour le globe du Super G. Mais pour les entraîneurs, pas question de changer quoi que ce soit. Le chef du ski masculin suisse, Ozzy Inglin, veut garder le cap qu'il s'est fixé.
La motivation est toujours là et quand même là. Moi, je trouve que c'est faux si on essaie de faire quelque chose de spécial maintenant. Surtout Beat, il faisait jusqu'à maintenant une super saison. On n'a jamais fait quelque chose de spécial pour lui. Et je pense qu'il faut continuer avec toute cette direction. Oui, je suis sûr qu'il est capable de continuer sur ce haut niveau.
L'insouciance face à l'expérience, Didier Cuche sait ce qu'il doit faire. Il n'y aura pas de sentiment et les prochaines courses seront tout d'abord une lutte entre athlètes.
Moi, j'espère bien évidemment que Beat soit pas aussi fort qu'il a été dans les dernières courses. Faut pas oublier Kröll qui est très constant, très régulier, qui a exactement le même retard que Beat sur moi. Donc ça va être une lutte très, 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 très serrée jusqu'à la fin, je pense.
La relation qu'il peut y avoir entre Feutz et vous, c'est comme sur n'importe quelle Coupe du Monde, finalement, il n'y a rien qui change.
Pourquoi ça changerait ?
Par la concurrence.
Non, ça n'a jamais changé par le passé. C'est sûr que l'année passée, avec Valhofer, avec l'épisode de Kittiel, la situation était certainement un peu différente, puisque j'ai eu l'impression d'être poignardé dans le dos par certains athlètes et certains chefs d'équipe. Maintenant, la situation est complètement différente ici. Que le meilleur gagne.
Et on a senti hier le Neuchâtelois déjà très concentré sur ses courses. Il veut finir sa carrière en beauté et pour lui aussi, il s'agit de mettre les choses au point ce week-end en Super G.
La première qui accueille pour ces petits matins Christian Michelot. Il est journaliste en Valais, journaliste sportif au Nouvelliste en l'occurrence. Mais c'est surtout le créateur de la fondation Moi pour Toi qui depuis 25 ans accueille des enfants défavorisés de Pereira en Colombie que nous recevons ce matin. Christian Michelot, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai des journalistes sportifs à l'édition aussi un peu maintenant. Ce travail de nuit, obscur, ingrat parfois peut-être, mais qui fait que le journal sort. Ce métier, c'est quoi, un métier de passion ou c'est un métier alimentaire à côté de Moi pour Toi, entre autres ?
Je dirais que c'est un métier de passion que je fais depuis 36 ans. Mais c'est vrai que la Fondation Moi pour Toi et ses regards d'enfants ont pris dans mon cœur un peu de la place du Nouvelliste. Mais je fais mon travail consciencieusement.
Voilà, c'est le sport, hein, surtout.
C'est le sport, oui.
Votre dada. Et on sait, Christian Michelot, c'est les jeux de mots. Si on regarde un peu les titres, c'est le spécialiste du jeu de mots, de la tournure, de la formule.
C'est vrai, on trouve même un jeu de mots dans le mode de la fondation. Moi pour toi, toi, il y a un toi sur le mot toi, et où il y a un T à la fin. Et donc j'ai toujours aimé ça depuis tout petit, c'est vrai.
Jouer avec les mots.
Jouer avec les mots, c'est ma passion au moment d'écrire.
Alors voilà, c'est une passion, mais c'est pas de celle-là dont on va parler. On va parler de celle qui est née en 1987, qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus Christian Michelot, c'est Papa Christian.
Oui, c'est vrai, c'est Papa Christian. Et quand j'arrive là-bas, trois fois par année, que je vois tous ces enfants qui me saute dans les bras en disant papa, 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 de retour, c'est vrai que ben, on est reparti pour une année, quoi.
Alors comment ça a débuté tout ça?
En fait, ça a débuté par un premier voyage en Colombie en 1975 où je suis tombé enceinte, je dirais, de la Colombie, de ces gens, du pays, mais surtout de la qualité humaine de ces gens et un regard d'enfant que j'ai croisé un jour. Et qui
mais quel, quel type de voyage? Un voyage touristique?
Un voyage de mochila, on dit en espagnol, ça veut dire sac à dos. J'en avais un peu marre de la vie ici en Suisse. J'avais décidé de chercher autre chose, de voir autre chose pour voir quel était mon... le destin qui m'attendait.
Et ce destin vous attendait.
Et ce destin m'attendait, et au regard, à travers un regard d'enfant, j'étais dans l'unique voie ferrée qui existait encore à l'époque, maintenant il n'y a plus, de train entre Bogota et Santa Marta. Le train s'est arrêté en rase campagne, et il y avait une petite hutte, et de cette petite hutte est sortie une petite fille toute nue, blonde. Elle s'est approchée des rails, et on avait ce croisement de regard à travers la vitre, quoi. Et le train est resté là 5 minutes, on s'est regardé pendant 5 minutes, et c'est ce regard qui m'a porté, qui me porte encore aujourd'hui.
Une révélation, en quelque sorte.
Oui.
Cette petite fille, vous l'avez connue, vous l'avez retrouvée?
Je l'appelle Nadie, ce qui veut dire personne là-bas, mais non, je ne l'ai jamais retrouvée. Mais j'ai retrouvé ce regard qu'elle avait à travers une première adoption, parce que j'ai adopté 2 enfants en Colombie, et quand j'ai retrouvé ce regard à travers mon premier enfant, qui a maintenant 26 ans et qui est sur les pistes à Montana au service militaire, je dis, là, je dois faire quelque chose. Donc, j'étais enceinte, quoi, pendant 12 ans, et moi pour toi, elle est née 12 ans après ce premier voyage. Quoi. C'est une longue grossesse.
Alors justement, comment est-ce qu'on passe d'un regard, de cette gestation, on va employer le mot, à la naissance de moi pour toi?
Mais tout simplement, au baptême de Juan, mon premier enfant, j'avais connu un foyer là-bas qui n'avait pas beaucoup de moyens, ils n'avaient même pas un congélateur ou... un frigidaire, et j'ai fait le jour du baptême à La Race en Valais une action auprès des invités.
La Race et Aviona près du Bois Noir.
Voilà, une action auprès des invités de la journée, et j'ai récolté 1000 francs et j'ai acheté ce congélateur. J'ai toujours un ami qui s'appelle Alexis Giroux qui fait du théâtre et qui faisait un cabaret à l'époque. Il m'a dit on fait une semaine de cabaret à Martigny, on a fait un tabac. Et juste avant de faire ça, j'ai trouvé la parole « Moi pour toi », le mot « Moi pour toi » qui est donc né en 1987.
Voilà, c'est « Moi pour toi » en 1987. En 1991, ça devient une fondation, c'est-à-dire que là, vraiment, le bébé grandit, on lui donne un statut juridique, c'est important.
C'est très important parce que la fondation, enfin, l'action « Moi pour toi » au départ a très vite pris en Valais, donc on m'a conseillé qu'il fallait légaliser cette action, et j'ai fait le choix d'une fondation. C'est un choix pratique à la place d'une association. Et elle est née le 28 février 91 à Martigny et reconnue en Colombie depuis novembre 92.
Les premiers gestes concrets, à part ce congélateur, Christian Bichelot a une famille. Qu'est-ce qui s'est passé sur place?
Donc jusqu'en 91, j'ai aidé ce foyer où j'avais acheté ce congélateur. Et après, je suis devenu indépendant, c'est-à-dire que j'ai monté mon propre programme pour les enfants. Et précisément, le 19 juin 1991, jour où Pablo Escobar, le fameux narcotrafiquant colombien, s'est rendu à la police, le jour même, j'ai ouvert un premier foyer pour 12 petites prostituées qui avaient entre 10 et 12 ans.
Qu'est-ce qui vous a fait ouvrir ce foyer? Pourquoi ces filles? Pourquoi aller au-delà de la famille?
Parce que ça n'existe pas, curieusement, dans à Pereira, qui est une ville de 500 000 d'habitants à l'époque, il n'y avait aucun foyer pour ce genre de population. Et on m'avait conseillé, j'avais pris des renseignements, on m'a dit ben ça, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour ici, puisque ça n'existe pas. Donc voilà, un jour, la police est arrivée avec sa camionnette, il y a 12 petites filles derrière, et le jour justement où Escobar s'est rendu, 19 juin 91. Première ouverture du foyer.
Alors on l'a dit, 92 reconnaissance par le gouvernement colombien, 99 c'est l'UNICEF, puis en 2008, la Suisse, vous êtes champion national des ONG actives en Colombie, c'est un peu...
Voilà, j'étais très surpris parce que je dois envoyer un formulaire toutes les années à la Confédération pour savoir ce qu'on fait exactement, etc. Et quand j'ai reçu le livre des statistiques, j'ai vu qu'on était champion de Liga, effectivement l'ONG suisse qui apporte le plus de soutien à la Colombie, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on gagne le championnat.
Et aujourd'hui, Papa Christian accueille 180 enfants par jour?
180 enfants à plein temps. 180 enfants qui sont chez nous à plein temps et 70 employés qui les entourent, ça fait une famille de 250 personnes.
Et en 25 ans, combien?
Autour des 6, on arrive à 6 000 enfants.
nous sommes au bord de la mer. Les pieds dans l'eau, la tête en l'air. Nos farniente, comme pour toujours, sommes-nous devenus millionnaires. Et l'on s'ennuie comme des rats morts. Sur nos transats, on fuit le nord. On s'écrevisse de jambes en cuisse, sûr d'être heureux, foi de Matisse. Allez. On ira danser tous les deux. Oui, tous les deux, en amoureux, au dancing de la bonbonnière. Cocktail chanson et vue sur la mer. En attendant, on passe le temps. On se lit les magazines dans le vent. En sirotant la menthe à l'eau. Pour oublier qu'il fait trop chaud. Et devant s'achète des boules à 10 que l'on s'échange dans un French kiss. Oh yeah. On ira danser tous les deux. Oui, tous les deux en amoureux. Au dancing de la bonbonnière. Cocktail chanson et vue sur la mer.
Charlotte Parfois, des Valaisans en l'occurrence, qu'on va retrouver en concert ce soir au Pont Rouge à Monté.
Les petits matins.
Avec le décalage horaire de ce matin, nous restons en Colombie où nous retrouvons Christine Renauda. Christine, bonjour.
Bonjour.
La Colombie où les touristes peuvent trouver une nouvelle attraction qui agace particulièrement les autorités, nous dites-vous, Christine.
Oui, il s'agit du Pablo's Tour, un petit circuit touristique organisé par la famille du défunt baron de la drogue colombien Pablo Escobar. Les proches du roi de la poudre, abattu par la police en 1993, ont concocté cette nouveauté très prisée chez les touristes européens et américains qui visitent le pays. Vous pouvez, pour quelques $40, marcher le temps d'un après-midi sur les traces de l'un des plus grands criminels du monde dans sa ville natale, Medellín, comme à Chicago avec Al Capone.
Et comment ça se passe ?
Alors on vous fait monter dans un bus et vous allez sur les lieux qui ont marqué la vie du narco, le building d'où il aurait dirigé ses premiers envois de cocaïne, sa dernière planque, évidemment, sa tombe, et la maison-musée de son frère, Roberto Di Elocito. Ça, c'est le clou du tour parce que vous pouvez vous entretenir avec un très proche d'Escobar. Elocito, qui a perdu la vue suite à un attentat alors qu'il était en prison et qui a partagé une grande partie de la carrière criminelle de son frère, vous dira tout sur Pablo, ce qu'il a mangé lors de son dernier anniversaire dans le salon où il l'a célébré précisément, ce qu'il aimait et qui était vraiment le trafiquant, qu'on va bien sûr vous présenter comme une sorte de Robin des Bois des temps modernes. Famille oblige, hein. On va pas dire du mal du grand frère quand même. Vous pourrez même mettre la toque de fourrure avec laquelle Pablo Escobar s'exhibait parfois et vous faire prendre vous aussi en photo, bras dessus, bras dessous, avec le frère. Fantastique, non ?
Oui, fantastique peut-être, sauf que les Colombiens ne le voient pas de cette façon.
Ah, pas du tout. Medellín aimerait bien se débarrasser de l'image d'empire du crime qui ne l'a jamais quitté depuis les temps du cartel d'Escobar. Ces maires successifs font d'ailleurs la chasse aux magazines étrangers qui continuent à publier des reportages sur la violence en expliquant que la ville va mieux. Pablo Escobar est enterré, merci, et la page a été tournée. Ce qui n'est malheureusement pas tout à fait vrai. On est loin des indices de violence qu'avait Medellín en ces temps-là, mais il y a toujours des quartiers où les habitants vivent à la merci des règlements de compte entre bandes criminelles.
Mais il faut bien dire que ce n'est pas tellement le culte du souvenir qui fâche les autorités, Christine.
Alors non, ce qui choque aussi les autorités, c'est que ce soit les proches du trafiquant qui s'enrichissent grâce à son histoire sanglante. Eux racontent qu'ils n'ont jamais vu l'argent qu'Escobar avait accumulé et pour cause, ses biens ont été saisis par l'État. Et ce ne sont pas les seuls à gagner de l'argent comme ça. D'autres guides proposent de véritables excursions où vous pouvez aussi dormir dans l'ancienne hacienda Zoo du Capo, ouverte depuis peu. Vous pouvez notamment y voir les hippopotames que Pablo Escobar avait fait venir d'Afrique et qui se sont reproduits sur place. Alors pourquoi la polémique? Le jour où la Colombie sera en paix avec elle-même, elle acceptera peut-être de regarder l'histoire de ces cartels de la drogue et les familles des cartels de la drogue en face, mais on n'en est visiblement pas encore là.
Vous aurez donc, si j'ai bien compris, l'occasion de nous en reparler et on vous souhaite donc, décalage horaire oblige, une excellente nuit, Christine Renaudin.
Merci.
Le plus petit état du monde, niché dans la capitale d'un autre état, bienvenue au Vatican.
Voilà, une dernière prière pour la route et on y va. Il y a la photo du pape Benoît XVI, même dans le parking souterrain.
Cette semaine, un dromadaire sur l'épaule vous emmène découvrir les gens qui font tourner le Saint-Siège et ceux qui, tous les jours, arrivent des quatre coins du monde sur la place Saint-Pierre pour affirmer leur foi en la religion catholique.
Ce n'est pas la première fois que nous avons un pape gay. Aussi, Paul VI avait une relation.
Le Vatican, les fidèles et les rebelles, c'est du 20 au 24 février à 14h sur la première et à tout moment sur lapremière.ch.
5h22 sur la première, qui retrouve à l'occasion de ces petits matins son invité de ce jour, Christian Michelot, journaliste valaisan, mais surtout fondateur, créateur, animateur permanent de Moi pour Toi, une fondation qui œuvre en Colombie depuis 25 ans maintenant en faveur des enfants les plus défavorisés de la région de Pereira, en l'occurrence. Christian Michelot, quand vous entendez Christine Ornona nous parler du Pamplos Tour, en l'occurrence, il y a quelque chose de très étonnant par rapport à ce que vous vivez, à part cette rencontre fortuite entre Escobar et vous.
Bien sûr, et il y a eu une autre rencontre aussi assez incroyable. C'était, je pense, 94 ou 95, Escobar a été tué en décembre 93. Et un jour, à la fondation, j'étais là-bas, au foyer des filles précisément. Je sais pas, c'était midi comme ça, on frappe à la porte. Il y a un monsieur qui faisait à peu près 2 mètres de haut, cravaté et tout, en pleurs, complètement paniqué. Il a demandé de me voir. Il s'est présenté comme l'ex-caissier de Pablo Escobar. Il a dit « J'ai 3 petits-enfants. Cette nuit, on vient d'assassiner ma fille et mon gendre. Vous, vous avez 3 foyers. Vous prenez un enfant par foyer et vous n'avez plus de soucis financiers jusqu'à la fin de vos jours. » On s'est vite réunis là, 5 minutes, pour discuter. Bon, le cas a vite été réglé. On n'a pas voulu mettre le doigt dans l'engrenage. On a refusé. Et le monsieur est parti. Alors, la suite de l'histoire, je ne la connais pas, mais voilà une relation proche qu'on avait eue.
Vous avez refusé, je peux comprendre par rapport à l'apport financier, à la compromission que ça aurait pu engendrer, mais les enfants, ils auraient pu être menacés, ces enfants à lui, non?
Bien sûr, ces petits-enfants auraient pu être menacés, et peut-être qu'ils ont été menacés, et je ne sais pas, mais bon, on peut pas, je ne suis pas le sauveur du monde, et je devais aussi protéger un peu les enfants que j'avais chez moi à ce moment-là.
Alors ces enfants, Christian Michelot, ces enfants de Pereira, de cette ville, qui sont-ils? D'où viennent-ils, ces enfants que vous accueillez 180 par jour et en permanence?
Ce sont des enfants qui viennent de la rue, ils sont souvent amenés soit par la police, soit par le Bienestar, qui est le service de la jeunesse, disons, qu'on connaît ici en Suisse, où ils viennent frapper à la porte. Moi, pour toi, est très connu dans le milieu de l'enfance défavorisée à Pereira, donc de bouche à bouche, dans la rue. Ah, tu connais cette fondation, tu connais cette maison, c'est pas une prison comme ailleurs, etc. C'est vrai qu'on a une très bonne réputation auprès des enfants. Les enfants font souvent des circuits, ils vont un certain temps dans une institution, ils s'échappent, mais Il s'échappe très souvent, c'est pour essayer de pouvoir entrer à mon portrait. Et quand on est tout le temps complet, donc il faut attendre qu'une place se libère.
Peut-être deux mots pour qu'on comprenne bien. Pereira, c'est quoi comme région, comme ville qu'on
L'Eje Cafetero, c'est la région du café de Colombie, qui est quand même un des produits positifs colombiens que tout le monde connaît. Et c'est une région, c'est magnifique. L'année passée, le New York Times avait publié la liste des 10 endroits au monde où il fallait vite aller avant que ça devienne trop touristique. Et pour la première fois, il y avait une région de Colombie, et c'était précisément la région où on se trouve. Pereira, c'est la capitale du café de Colombie.
Mais c'est quand même, alors ça, en apparence, une région qui pourrait être riche ou qui l'est, mais il y a une grande misère, et notamment auprès des enfants.
Bien sûr, les contrastes sont énormes. C'est vrai qu'on dit souvent que peut-être que Pereira, c'est la ville la plus contrastée entre la richesse et la pauvreté, mais il faut pas croire, le café, c'est pas produit actuellement en pleine bourse, je dirais, donc il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de caféiculteurs. J'ai d'ailleurs acheté en 92 une ferme caféière, comme on dit, pour la transformer dans le centre principal, le siège principal, où là se trouvent 40 enfants qui ont entre 4 et 12 ans.
Alors, ces enfants qui vous viennent, ces 180 qu'on vous amène, c'est quoi par rapport aux autres enfants de la région, de la ville? C'est une minorité oubliée ou finalement c'est une situation assez normale, si on peut dire comme ça, que ces enfants défavorisés de la rue?
C'est une situation assez normale vu la promiscuité économique. En Colombie, le salaire minimum que gagnent 70% des gens équivaut à peu près à 250 francs suisses. Pour avoir déjà une petite pièce pour pouvoir se loger et tout, il faut compter en tout cas 100 à 150 francs. Quand vous avez 4 ou 5 enfants, vous n'arrivez déjà plus à vivre. Donc ces enfants ne vont pas à l'école, ils vont ramasser le café, ils font des... C'est vrai que c'est des enfants qui travaillent beaucoup. Et voilà, moi pour toi, être un peu la main, comme le logo le montre, moi pour toi, content à toute cette population en danger.
Alors ces enfants, Christian Michelou, on vous les amène, vous l'avez dit tout à l'heure, la police, le service de la jeunesse. Comment est-ce que vous les accueillez avec moi pour toi? Quelle est la structure humaine, matérielle?
La structure humaine, c'est 70 professionnels qui couvrent toutes les branches. Je veux dire de la cuisinière au psychologue, assistante sociale, travailleuse sociale, éducateur, formateur, enseignant. Donc on a un centre d'urgence au centre-ville, un centre d'urgence où viennent directement là dans les enfants de la rue, aussi, amenés par la police souvent. On a trouvé dans l'année passée, par exemple, deux matins un bébé devant la porte. Et là, on a 35 places pour garçons ou filles de 0 à 18 ans. Ça, c'est un centre assez... qui bouscule, qui prend les tripes quand on y va. Et là, les enfants restent, selon la loi, devraient rester pas plus que 10 jours. Pendant ce temps-là, on fait toute une analyse, l'histoire de l'enfant, analyse médicale. Et après, on recherche une autre structure, suivant la problématique, si c'est un toxicomane, si, et tout ça. Et s'il y a de la place chez nous, on peut aussi les prendre chez nous, mais il n'y a pas souvent de la place. Et donc, voilà, c'est une sorte de garde de triage, comme ici à côté à Renan, où les enfants viennent.
70
les...
collaborateurs, vous avez dit, professionnels, ça veut dire salariés aussi. C'est autant de places de travail que vous offrez à la région.
Voilà, une place de travail en Colombie, c'est quelqu'un qui travaille en Colombie, fait vivre la famille au sens très large du terme. Donc c'est vraiment un impact au niveau de la vie à Moi-Pour-Toi et à Pereira, c'est Moi-Pour-Toi un impact énorme. Quoi, oui.
Alors ces différents locaux, des lieux, on l'a compris également, Christian Michelot, est-ce que vous offrez à ces enfants de 0 à 18 ans, c'est une véritable formation à ceux qui restent chez
eux. Voilà, donc après, justement, dans cette ferme caféière, les enfants restent de 4 ans à 12 ans. Là, on a un centre éducatif qui existe depuis 2006, où les enfants vont à l'école de 2e enfantine à 5e primaire. Et là, on ouvre ce centre éducatif à 100 enfants défavorisés de la région qui ont une famille, et qu'on va chercher tous les matins en bus pour les amener à l'école. On leur donne le petit déjeuner parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient rien à manger chez eux. Le petit déjeuner, ils vont à l'école, le dîner, et après, dans l'après-midi, on les ramène à la maison. Et là, ils restent jusqu'à la 5e primaire. Ça, c'est un des projets que j'ai, c'est d'aller jusqu'à la fin de l'école obligatoire.
Alors ça les amène à 18 ans et on les lance...
Non, ça les amène à 12-13 ans. 12, 13 et là, ans. On a deux foyers en ville pour adolescents, un pour garçons, un pour filles, où là, les enfants restent jusqu'à l'âge de 18 ans, étudient, et on a des ateliers de formation, on a une boulangerie, on a atelier de couture, on a informatique, salle d'informatique. Donc les enfants sortent à 18 ans, il y en a qui sont à l'Uni. Actuellement, j'ai 5 enfants qui sont à l'université, qui sont toujours à la fondation. Et c'est pour pouvoir après lâcher la main de moi pour toi et marcher tout seul dans la vie. Voilà, c'est le but.
Mais vous dites aussi que s'ils veulent retourner dans la rue, ils le peuvent.
Alors c'est une fondation qui est libre. Ça veut dire que l'enfant qui vient de la rue peut aussi y retourner. Et c'est vrai qu'on a des cas d'évasion. Mais bon, dans ces cas-là, on le retrouve 6 mois plus tard dans une autre institution ou au centre d'urgence où sont ramenés un peu tous les cas.
Moi pour toi, Christian Michelot, on se retrouve tout à l'heure pour les 25 ans de cette fondation qui œuvre pour les enfants les plus défavorisés de Pereira en Colombie. 5h30, c'est l'heure des informations. Valérie Drou.
86 morts en Syrie, une majorité de civils. Le bilan de la journée d'hier selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces décès interviennent alors que s'ouvre aujourd'hui la conférence internationale des amis de la Syrie à Tunis, en Tunisie. 60 pays y participent, dont la Suisse. Organisée à l'initiative de la Ligue arabe, elle a pour but d'arrêter les violences, en particulier contre les civils. La Chine et la Russie ne seront pas présentes. L'ONU a nommé son ancien secrétaire général Kofi Annan, émissaire adjoint des Nations Unies et de la Ligue arabe sur la crise en Syrie. Il sera assisté d'un adjoint choisi dans la région arabe, expliquent les Nations Unies dans un communiqué publié cette nuit. La principale mission de Kofi Annan, offrir ses bons offices, toujours dans le but de mettre fin à la violence, ainsi que pour promouvoir une solution pacifique à la crise. Le feu vert formel à l'effacement d'une ardoise de près de 130 milliards de francs. Le Parlement grec a adopté hier le projet de loi nécessaire à lancer la procédure. C'est une restructuration d'une ampleur jamais vue dans l'histoire financière. Le processus devrait commencer aujourd'hui. La Maison-Blanche veut donner aux internautes un meilleur contrôle sur la diffusion de leurs informations privées. Elle a dévoilé hier un projet de déclaration de droit pour protéger la vie privée sur Internet. Il s'agit de limiter à terme le pouvoir d'entreprises comme Google ou Facebook, régulièrement montrées du doigt pour leurs pratiques en la matière. Éric Guevara-Frey.
On ne compte plus les révélations sur la face cachée des outils Internet utilisés quotidiennement à travers le monde. Entre les applications iPhone qui siphonnent le contenu de votre carnet d'adresses à votre insu, Google qui enregistre vos données de navigation malgré vous, Facebook et ses changements intempestifs dans sa politique de confidentialité. Le gouvernement américain veut mettre de l'ordre là-dedans, il veut mettre un terme à l'impunité de fait dont jouissent les acteurs d'Internet, tout simplement parce que la technique a évolué beaucoup plus vite que les lois. Mais rien n'indique que la situation va changer rapidement, en l'absence de règles contraignantes. Barack Obama s'appuie pour l'instant sur un engagement volontaire de compagnies comme Google, Yahoo, Microsoft et AOL. Elles ont promis de faciliter la tâche des internautes qui veulent naviguer sans être épiés. Le président assure que ce n'est qu'un début. D'autres mesures et surtout des lois devraient suivre, pour autant que le Congrès voit le problème d'un même œil. Éric Guevara-Frey, Radio Suisse Romande, Washington.
La Suisse reçoit, citation, des signaux positifs face à sa nouvelle stratégie envers l'Union européenne. Parole de Didier Burkhalter, qui en a fait l'expérience hier à Londres. En marge de la conférence sur la Somalie, il s'est entretenu avec ses homologues italiens et espagnols, ainsi qu'avec le ministre britannique en charge des affaires européennes. Pour mémoire, la nouvelle stratégie du Conseil fédéral, c'est de trouver une solution à la fois aux aspects matériels et institutionnels sur un dossier pilote avec l'Union européenne, celui de l'énergie et de l'électricité. Plus d'un tiers des entreprises de l'industrie des machines n'étaient dans le rouge en 2011, selon SwissMed, l'organisation fêtière de la branche. Force du franc, commande en baisse. SwissMed demande donc plus de moyens pour la commission de la technologie et de l'innovation. 100 millions pour l'instant, il en faudrait 50 de plus, minimum. Et une leçon à tirer de la crise, seule l'innovation peut faire la différence. Hans Hess, président de SwissMed.
Avec le choc économique, il faut changer quelque chose. Ils ont réalisé que la Suisse est le pays le plus innovatif du monde. Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas utiliser cette force de la Suisse, cette innovation force, mieux pour les usines? Ça, les compagnies ont compris ça, mais aussi le gouvernement a compris ça, les politiciens ont compris ça.
Et vous-même, Suisse-même, avez compris ça?
Nous avons vu que ça, c'est un moyen très fort qui peut vraiment aider nos compagnies. On a investi et on a commencé à communiquer avec les politiciens, avec les industries, qu'il faudrait utiliser cette force de la Suisse, cette force innovative.
Des propos recueillis par Francesca Argirofo. Suspendu, le chef du service des sports de la ville de Genève. Il va être mis sous enquête administrative après des problèmes constatés dans le cadre de l'organisation du tournoi de tennis ATP Challenger de Genève. Aucun autre détail ne sera fourni avant le terme de la procédure, a indiqué la direction du département de la culture et du sport. Vienne suivra de près les votes du Jura et du Jura bernois sur leur avenir institutionnel, mais elle ne sera pas intégrée au processus dans cette première phase. Si l'enjeu de ces votations est important, en particulier pour les romans de Vienne, la ville n'entend pas s'immiscer directement dans la campagne. C'est aussi l'avis de Philippe Garabani, président du Conseil des affaires francophones.
C'est ce que nous définissons comme une neutralité active. C'est-à-dire que Vienne et le Conseil des affaires francophones ne vont pas chercher à influencer directement le vote des jurassiens bernois. C'est la population du Jura bernois qui doit se déterminer. Par contre, Vienne, et spécialement les romans de Vienne, sont très intéressés à ce que ça va donner. Quel que soit le résultat de la votation, il faudra redéfinir et institutionnellement redéfinir les relations entre Vienne et le Jura bernois ou le sud du Jura.
Philippe Garabani interrogé par Alexandra Richard. Et en football, en Ligue Europa, Manchester United s'est qualifié pour les huitièmes de finale hier soir, malgré sa défaite 2-1 à domicile contre l'Ajax Amsterdam. A noter aussi la qualification de l'Atlético Madrid au détriment de la Lazio de Rome.
C'était le journal de Valérie Droux. On retrouve la météo avec Eric Fauchère.
Le ciel de la journée se fera avec un dégradé nuageux nord-sud. Tout au nord, du côté de la Joie, le temps s'annonce gris avec des nuages compacts et de rares éclaircies. Sur les Préalpes, le Jura et le Plateau, la matinée sera couverte. Puis progressivement, les nuages se dissiperont. Davantage de soleil en perspective pour cet après-midi. Dans les Alpes, sur le Valais et le Tessin, ciel dégagé. Un dégradé nord-sud qui se verra aussi dans les températures. Il fera 9 degrés cet après-midi au nord du plateau, 12 sur le Léman, 14 en Valais central, très doux en montagne, 6 degrés à 2000 mètres. Le week-end restera doux, le ciel sera bien dégagé sur les Alpes et le Valais. Plus au nord comme sur le plateau, le Jura, les Préalpes et la Joie, davantage de passages nuageux, maximum 10 à 14 degrés.
5h36 sur la première.
Les petits matins, Claude Defago.
Petit matin qui reçoivent aujourd'hui Christian Michelot, journaliste en Valais, au Nouvelliste, mais surtout créateur, animateur de Moi pour Toi, une fondation qui depuis 25 ans maintenant s'occupe d'enfants défavorisés à Pereira, en Colombie. Ils sont 180 en permanence dans les centres qu'organise, que gère Moi pour Toi là-bas. Ça veut dire 6000 en 25 ans environ, un très très gros travail. Moi pour Toi, vous dites Christian Michelot, est indépendante, je vous cite, des grandes marques. C'est le mot que vous employez, humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la méfiance, de la défiance?
Non, c'est pour bien préciser que Moi pour Toi est une petite entreprise privée, née de mon cœur et que mon cœur fait vivre depuis 25 ans. Ça veut dire aussi qu'on a, on n'a jamais eu l'envie de se fondre dans une entreprise plus grande. C'est vrai que je travaille la même chose qu'il y a 25 ans. Je suis journaliste à plein temps en Nouvelliste. Et à 25 ans, j'avais peut-être besoin de 25 ou 30 000 francs par année pour commencer Moi pour Toi. Et maintenant, mon besoin financier de 30 000 francs par jour, tous les jours de l'année, donc le budget dépasse le million. Et c'est vrai que j'aurais eu peut-être l'idée une fois de dire « bon, ben, faut que je cherche de l'aide auprès de quelqu'un de plus grand ». Et non, Moi pour Toi reste Moi pour Toi, il restera toujours Moi pour Toi. Cette fondation de main à main, comme le montre le logo aussi, je pars le 23 mars pour mon 53e voyage sur place. Là-bas, les enfants attendent Papa Christian, les employés aussi attendent Papa Christian. C'est vraiment une relation sans intermédiaire, et je crois que c'est la marque principale de Moi pour Toi.
Sans intermédiaire, c'est extrêmement important. C'est un franc ici, un franc là-bas.
C'est un franc ici, un franc là-bas, ça je peux le crier haut et fort. Les petits frais administratifs, parce qu'on a un petit magasin d'artisanat de Colombie à Martinis, la location du magasin, mais tous ces frais sont justement ici couverts par l'organisation d'un ou deux événements, par la vente. On a aussi du vin Moi pour Toi, on en valait bien sûr. Et on peut dire qu'au niveau du don, un franc de don est un franc qui arrive sur place et à travers moi toujours.
Alors justement, vous n'avez pas d'appui étatique, hein, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'aide de la Confédération, d'un organisme quel qu'il soit, c'est vraiment vous tout seul.
C'est nous tout seuls, c'est 1500 parrains, on appelle ça le club des 1000. Ça veut dire qu'une personne s'engage à verser 1000 francs en 5 ans, ce qui fait 20 francs par mois, ce qui n'est pas énorme. Mais ces 1500 personnes sont la base de la fondation. Par contre, au niveau subvention, comme on est reconnu par le gouvernement colombien depuis 92, ils ont décidé, vu la qualité de notre travail, depuis 2006, de nous aider. Et maintenant, je peux dire que sur les 3000 francs par jour que j'ai besoin, 1000 francs provient du gouvernement colombien et c'est une reconnaissance énorme pour la Fondation et pour moi.
Alors justement, Christian Michaud, vous disiez tout à l'heure, j'ai reçu le secrétaire, le caissier de Escobar qui voulait me confier ses enfants en nous assurant finalement la pérennité financière de notre entreprise sur place. Vous avez dit non. Est-ce que là, le gouvernement colombien qui vous aide, c'est exempt de toute pression, de toute influence?
Oui, c'est... De toute influence, on ne peut pas dire, parce qu'ils ont des standards. On doit suivre leurs standards de qualité au niveau de l'éducation. Et c'est par rapport à ces standards qu'ils nous financent. Et il y a trois ligues, on peut dire, Ligue A, Ligue B et Ligue C. Et suivant la qualité du travail, on est en Ligue A, ça veut dire qu'ils donnent plus d'argent qu'en Ligue B ou qu'en Ligue C. Bon, on est toujours en Ligue A. On est considéré comme la meilleure institution de tout le département.
C'est une reconnaissance extraordinaire, cela. Et ça, c'est essentiellement avec des collaborateurs colombiens, il faut bien dire.
Bien sûr. Donc, il faut bien dire que les 70 employés sont tous des Colombiens, mais ils sont appuyés par des volontaires. Hier soir, par exemple, ici à Lausanne, grâce à votre émission, j'ai rencontré en même temps la première volontaire de Moi pour Toi, Marlène Huguin-Bull, qui était partie en 1990, et la dernière, Léa Paganini, qui est arrivée il y a une semaine. Donc cette rencontre était extraordinaire entre ces deux filles.
Et on en aura une au téléphone tout à l'heure.
Tout à l'heure, voilà. Donc actuellement sur place, il y a deux personnes. Il y a Joséphine Morisot de Sion et Raphaël Lavanchier de Martigny, qui sont engagés, qui ont pris une année sabbatique pour me l'offrir à mes enfants.
Alors, vous avez parlé de ces 1500 et quelques parrains qui vous aident, hein, le club des 1000 à coût de 20 francs par mois et qui couvrent une partie du budget, mais il y a aussi des parrains de renom, il en faut, hein, pour tirer une association, des gens célèbres, hein, qui
bien
vous aident.
Bien sûr, il faut, bien sûr, bien sûr. Donc, je ne sais pas tous en tête maintenant, mais j'ai la dernière histoire, elle est tellement belle que je suis obligé de la raconter. C'est donc Laura Chaplin, qui est la petite fille de Charlie Chaplin. J'ai toujours dit, et tous mes amis le savent, que j'ai ni Dieu ni maître, mais une référence dans ma vie, c'est Charlie Chaplin. Et en partant en Colombie, en décembre 2010, j'étais bloqué à Genève par la neige. L'aéroport était fermé, donc j'ai dû rester deux soirs à Genève en partant avec un copain. Et dans un bistrot, un soir, une dame de 80 ans nous paye une bière et puis je sais pas pourquoi, je suis venu sur le thème de Chaplin. Ah, mais écoutez, on m'a donné cette carte hier. C'était la carte de Laura Chaplin. Quand je suis revenu de Colombie, j'ai pris contact avec elle parce qu'elle fait de la peinture et elle avait peint Le Kid, une pièce que j'avais jouée avec les enfants là-bas dans une soirée en Colombie. Et puis on a pris contact et un mois après, elle était devenue la marraine de Moi pour Toi. L'année passée, elle est venue en Colombie avec moi et elle repart au mois de juin avec moi aussi.
Aussi un coup de foudre, là en l'occurrence, pour elle, oui. pour les enfants là-bas. Votre philosophie, Christian Michaud, c'est aider mais pas assister.
Non, c'est justement essayer de faire le maximum pour que ces enfants apprennent un métier, apprennent, étudient et puissent sortir de la fondation comme des hommes responsables, comme des femmes responsables. Je reviens là parce que c'est important. Ce premier foyer que j'ai ouvert en 91, j'ai des contacts encore avec la moitié de ces enfants qui ont maintenant plus de 30 ans et qui m'appellent toujours Papa Christian, maintenant que les moyens... médiatique qu'on a, le téléphone.
C'est-à-dire qu'ils sont bien installés dans la vie.
Qu'ils sont bien installés dans la vie, ils sont mère de famille. Il y en a une, elle a fait toute la carrière chez nous. Et après, elle vient de finir, il y a deux ans, elle a fini ses études de psychologie, elle est psychologue, elle a travaillé deux ans chez nous. C'est assez extraordinaire. Et je dis toujours, ça c'est la question qu'on me pose et que vous ne m'avez pas encore posée. Moi, je recommence pour une seule personne. Le prix, la valeur de la vie pour un seul enfant, c'est énorme. Et je recommence pour en sauver un, je recommence 25 ans de lutte.
On a l'impression, vous entendre, qu'il n'y a que des succès, mais j'imagine qu'il y a aussi des crèves-cœurs et des échecs.
Ah non, bien sûr. Alors, les échecs, c'est précisément ces enfants qui s'évadent, qu'on retrouve dans la rue, qu'on essaye de faire revenir chez nous et qui ne veulent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à cette situation. Quand on a vécu 5, 6, 7 ans dans la rue, c'est difficile d'avoir une discipline, de vivre en groupe, dans un endroit sain ou... Bah, finalement, l'amour ne fait pas que des miracles, mais il en fait beaucoup quand même.
Et ceux qui ont fait tout le parcours chez vous et qui finalement ne réussissent pas, ça existe ?
Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est,
Vous les revoyez ? Vous avez des contacts avec ceux-là avec,
On a des contacts. J'ai rendez-vous le 27 mars avec tout un groupe d'anciennes pensionnaires de Moi pour Toi. Alors certainement que dans cette vingtaine de dames, de femmes que je vais rencontrer, il y aura certainement qu'il y aura des vies encore difficiles. Mais ils ont reçu des valeurs chez nous et je sais qu'au-delà de ça, ils en parlent toujours. Et au-delà de ça, ces valeurs... quand on est au fond du trou, des fois permettre de remonter.
Question Michelot, vous dites très justement que vous avez l'appui du gouvernement colombien qui a aussi ses exigences, mais en même temps, est-ce que cette action, ces succès que vous avez, ça suscite peut-être quelques jalousies sur place, quelques animosités parfois ?
Non, aucune. Vraiment, on est accueilli à bras ouverts. Je suis aussi invité à la radio ou à la télévision là-bas. Non, vraiment, mais je dois dire que c'est sur la durée. Je veux dire, ça fait 25 ans.
C'est un pays, la Colombie, de tensions politiques. Ah, bien sûr.
Alors, ouais, c'est un pays.
C'est aussi un monde où le crime est très présent.
Oui, tout à fait. Alors, une autre anecdote de ce premier foyer que j'ai ouvert en 91 dans un quartier qui s'appelait Cuba. Eh ben, j'ai dû déménager en un mois. Il y a quelques années, la guérilla avait pris possession du quartier et était venu me rencontrer en disant « on vous laisse tranquille, mais vous payez votre dû, votre dîme, ou bien vous partez », et j'ai préféré partir.
Sans peur, sans crainte.
Sans peur, sans crainte, non.
Et depuis, on ne vous a pas ennuyé ? On ne vous a pas cherché la prime un peu plus loin ?
On a un couple de Valaisans, une fois, qui a été, entre guillemets, enlevé dans la campagne colombienne, parce qu'ils voulaient en fait le véhicule pour se faire amener au sommet de la montagne, et là où ils les ont lâchés.
Nous sommes de sœurs jumelles, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre ou sauvage passion. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme bon,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Et oui, ces sœurs jumelles, les demoiselles de Rochefort, c'était le film, la bande originale, une musique signée Michel Legrand, qui fête aujourd'hui ses 80 ans et qui est un fidèle de Cran Montana. Donc vous voyez qu'il est peut-être au bord des pistes, qui sait, aujourd'hui.
Les petits matins.
Petits matins qui vont partir en Colombie, à Pereira en l'occurrence, où nous retrouvons celle que, on peut pas dire, il a choisi de la réveiller, de ne pas la laisser aller se coucher en l'occurrence. Notre invité Christian Michelot a choisi d'interpeller Joséphine Morisot. Joséphine Morisot, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes stagiaire là-bas, pour moi, pour toi, à Pereira. Vous êtes une de ces Suissesses ou Suisses qui s'engagent aux côtés des collaborateurs colombiens. Dites-nous, puisqu'il est à peu près minuit chez vous, quelle a été votre journée de hier pour nous ou d'aujourd'hui pour vous, ou quelle sera celle de demain concrètement? Quel est votre travail à Pereira?
Alors, mon travail à Pereira, ces temps-ci, c'est de donner des cours de langue aux enfants de l'école de la Fondation. Alors en fait, je m'occupe des cours de français. Ben, demain matin, par exemple, je vais donner des cours de français à tous les enfants de la fondation, depuis l'école enfantine jusqu'à aux enfants de 5e primaire.
Vous avez terminé.
En fait, durant ces. Pardon ?
J'allais dire, vous avez terminé vos études en Suisse et vous avez choisi de faire un break, comme on dit en franglais, pour partir justement là-bas. Qu'est-ce qui vous a incité à partir en Colombie et avec Moi pour toi ?
Alors en fait, après mes études, j'avais besoin de faire un break, comme vous avez dit. Et puis j'avais envie de vivre une expérience un peu différente de ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas partir en Amérique du Sud ? Et puis j'ai beaucoup cherché sur Internet des idées pour trouver une fondation avec qui partir. Et puis c'est un peu le destin, Moi pour toi, parce que plusieurs fois, en fait, j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit « Ah, Moi pour toi ». Ensuite, je parle avec une dame qui m'a dit « Ah, je suis allée au souper de la fondation, Moi pour toi ». Alors donc du coup, dans ma tête, ça a tourné « Moi pour toi, Moi pour toi ». Et puis un jour, je rentrais en voiture depuis Fribourg, où j'ai fait mes études. Et puis à la radio, il y avait justement Christian qui est en train de raconter, d'expliquer en quoi consistait sa fondation. Et je me suis dit, c'est le destin, il faut que je l'appelle. Et du coup, je l'ai appelé et puis voilà.
Alors,
j'ai demandé si c'était possible de partir avec lui.
Alors ce « et puis voilà », concrètement, sur le terrain, c'est ce que vous aviez imaginé ?
Pas du tout. Honnêtement, mais en positif donc. Je ne pensais vraiment pas trouver une fondation comme ça. Pour moi, c'était une fondation, oui, qui faisait vivre quelques enfants. Mais j'imaginais pas la taille et l'ampleur en fait de cette fondation dans cette ville de Pereira et le nombre de personnes qui gravitent autour de la fondation, que ce soit les employés, les gens de la cuisine, les assistantes sociales, les enseignants, enfin, le nombre de personnes qui travaillent pour cette fondation et le nombre d'enfants aussi qui fait partie de cette fondation, c'est incroyable.
Et ces enfants, Joséphine Morisot, ils vous appellent déjà maman Joséphine?
Non, il m'appelle profé, la prof.
Et la prof, comment est-ce qu'elle les voit, ces enfants?
Alors, avec beaucoup de tendresse, les enfants qui cherchent énormément, qui nous cherchent énormément au niveau, qui ont besoin d'affection, beaucoup d'amour. Dès qu'on arrive le matin, parce que l'école, le matin, on arrive avec le bus de la fondation à 6h30. La première chose qu'ils font quand on arrive, c'est qu'ils nous sautent dans les bras. Et ils nous font des câlins, mais toute la journée. C'est vraiment énormément de contact physique. Ils ont beaucoup besoin de la présence de l'adulte.
Joséphine Morisot, papa Christian est là. Il vous écoute avec beaucoup d'attention. Et il va profiter pour vous adresser le bonjour et peut-être vous donner quelques consignes pour la journée à venir, Christian.
La journée à venir, on est, oui, demain c'est vendredi. C'est ton dernier jour de la semaine ou bien?
Mon dernier jour, oui. Mon dernier jour à me lever à 5h30.
Ah bon, et tout se passe bien?
Pour l'instant, tout va très très bien.
Oui, je sais que tes parents sont à l'écoute.
ils m'ont averti qu'ils allaient se réveiller exprès pour moi.
Mais c'est formidable tous ces liens. Et hier soir, j'ai rencontré ici la première volontaire et la dernière. Bon, la dernière, tu la connais, c'est Léa. Et j'ai rencontré la première qui a 48 ans aujourd'hui, qui était partie en 1990. Et c'était un moment très riche en émotions aussi. Et comme tu en vis là-bas aussi, je pense.
Ok, oui.
Et quand c'est que tu rentres, je profite de demander.
Je savais bien que ça servirait à quelque chose.
Oui.
Dans 10 ans, si tu m'as dit que
C'est la réponse que je voulais écouter.
Voilà.
Alors, merci beaucoup. Ouais.
Joséphine Morisot, on va se quitter. Vous souhaitez le bonjour. Si vous voulez adresser deux mots à vos parents puisqu'ils écoutent, allez-y, profitez.
Alors, je leur fais de gros becs depuis la Colombie. Et je leur souhaite une toute belle journée, comme à vous.
Merci beaucoup
et bonne nuit à vous, puisque demain vous vous levez tôt pour la dernière journée de la semaine. Joséphine Morisot qui est à Pereira, en Colombie.
La première présente du 13 au 21 avril, le QI Jazz Festival avec des grands noms du jazz comme Monty Alexander, Carla Bley ou Bobby McFerrin, des rencontres inédites avec Pierce Faccini, Oxmo Puccino.
Marmelade public énervé, température élevée à minuit, pour les applaudissements même le jour se lève.
Et aussi Madeleine Peyrou, Melingo, Sandra Nkake et d'autres encore. Tout ce jazz, on le retrouve sur la première dans Paradiso à 19h et dans Jazz sur Espace 2 à 22h40. Tout le programme et les infos sur qijazz.ch.
5h53 sur la première qui reçoit ce matin Christian Michelot, journaliste au Nouvelliste, mais surtout créateur, fondateur, animateur de Moi pour Toi, fondation qui depuis 25 ans accueille des enfants déshérités en Colombie, à Pereira, 180 en permanence, encadrés par 70 professionnels, dont des stagiaires comme Joséphine Morisot qu'on vient d'entendre, qui viennent de Suisse, des volontaires bien sûr, et puis 6000 en quelques 25 ans. Voilà pour le bilan brièvement résumé. Ça a l'air fantastique, succès, mais en même temps, vous dites, je vous ai lu quelque part, la misère n'a pas changé de camp. C'est peut-être un peu décourageant, ça, Christian Michelot.
Non, c'est pas décourageant. Oui, le constat est décourageant, mais je crois qu'il est, mondial, ce constat. Dans ces pays émergents, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Donc, la problématique de l'enfant de la rue est toujours en plus grande. Je veux dire, il y a toujours plus d'enfants dans la rue. Non, parce que je vois, moi pour toi, c'est très personnalisé. Moi, quand je parle d'un enfant de Moi pour Toi, je connais son histoire, je vois son sourire, je sais ce qu'il y a derrière son sourire, et c'est cet enfant-là que je veux sauver. Donc, je veux pas un jour de première communion en Colombie, le curé a fait un sermon pour présenter qui j'étais, en fait. Il disait, voilà, cet homme, il est au bord de la mer, il y a un flux qui ramène au bord de la mer sur la plage des crabes. Et ce monsieur marche, de temps en temps, il se baisse, il prend un crabe, il le remet dans la mer, il peut pas les ramasser tous. Donc voilà, j'avance comme ça. Et c'est vrai que c'est personnalisé. Moi pour toi, c'est un enfant, un regard, à qui je donne la main, cet enfant. Et celui-là, j'ai envie de le sauver. Et je sais que je peux pas tous les sauver. Donc il faut avoir la foi, bien sûr. La foi, l'enthousiasme, l'envie. C'est extraordinaire que depuis 25 ans, j'en ai toujours autant et même toujours plus.
Alors, est-ce qu'il faudrait concrètement, Christian Michelot, qu'il y ait d'autres, beaucoup d'autres, Moi pour Toi?
Ah, mais ça, c'est évident. Alors, bien sûr que... Et pareil qu'en Colombie, hein, il faut quand même être clair. Mais c'est évident que c'est petit type de fondation qui travaille très concrètement de main à main. C'est ce que les gens cherchent aussi pour la confiance. Parce que j'en reviens aux grandes marques humanitaires. J'ai rien contre, mais souvent les gens, j'entends ce commentaire. On ne sait pas où donner, qu'est-ce qu'ils font de l'argent. Moi pour toi fonctionne en Valais surtout parce qu'ils savent où l'argent va, parce qu'ils peuvent me téléphoner pour me féliciter, ou le contraire. Et il y a ce contact direct entre moi et les gens, comme le montre le logo, cette main, avec ces petites mains qui s'appliquent.
Alors, on précisera que sur le site internet de la radio, on mettra les liens, le lien qui conduit à votre site internet. Et là, on trouvera le mode d'emploi pour qui voudrait vous aider, même s'il n'est pas valaisan, et surtout s'il n'est pas valaisan, puisque vous avez déjà tous les valaisans derrière vous. Une dernière question. Papa Christian, quand Papa Christian sera très vieux ou plus là, qu'est-ce qui va se passer avec Moi pour Toi? C'est prévu?
C'est pas encore prévu, mais je vais profiter de ces 25 ans pour faire cette réflexion-là. Il y a déjà beaucoup de gens qui me parlent de ça depuis 10 ans. Moi pour Toi, ça va être difficile parce que Moi pour Toi, c'est tellement Papa Christian. Donc, trouver une personne, parce que Moi pour Toi, elle est de mon cœur. Mon cœur, je ne peux pas le greffer sur quelqu'un d'autre. Donc, mais je pense que dans...
Mais on ne peut pas larguer 180 enfants comme ça?
Ça va continuer. Donc, ça, c'est le but premier, c'est que ça aille au-delà de Papa Christian. Ça, c'est évident.
Papa Christian, Christian Michelot, on vous souhaite une excellente journée et puis un bon prochain voyage en Colombie. Bruce Springsteen, il sort un nouvel album le 3 mars prochain, mais surtout il sera en concert le 9 juillet au stade du Letzigrund à Zurich. Ça nous amène au terme de cette émission ce matin, de ce petit matin, Simon Matédoré. Mais je vous passe simplement le témoin pour la matinale, ben la
c'est
suite de cette matinale.
Merci beaucoup Claude Desfagos. Je crois qu'on retrouve Georges Pop lundi.
Georges Pop sera de retour. Il recevra Jean-Marc Sédou, doyen et professeur de la HIEGVD, vaudoise, en l'occurrence responsable de la filière ingénierie des médias.
Merci beaucoup. Bon week-end.
Bon week-end.
Infotrafic RSR.
Avec la Mobilière et ses assurances vie, lamobilière.ch.
Le trafic est fluide sur le réseau routier romand et les conditions de circulation sont bonnes. Ce week-end sera marqué par les festivités de carnaval en terre protestante. Fermeture, déviation, perturbation de circulation seront d'actualité dès ce soir dans les villes de Payerne, de Bienne et de Berne notamment.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
La météo avec Eric Faucher.
Le ciel de la journée se fera avec un dégradé nuageux nord-sud. Tout au nord, du côté de la Joie, le temps s'annonce gris avec des nuages compacts et de rares éclaircies. Sur les Préalpes, le Jura et le Plateau, la matinée sera couverte. Puis progressivement, les nuages se dissiperont, davantage de soleil en perspective pour cet après-midi. Dans les Alpes, sur le Valais et le Tessin, ciel dégagé. Un dégradé nord-sud qui se verra aussi dans les températures. Il fera 9 degrés cet après-midi au nord du plateau, 12 sur le Léman, 14 en Valais central, très doux en montagne.